Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
2 heures d'infos en direct, vous êtes sur Europe 1, bon réveil à tous.
Europe 1, il est 7h.
Provoquer une grève nationale pour ça, je trouve ça disproportionné et malvenu.
Des voyageurs excédés après 3 jours de mouvement à la SNCF. 4e aujourd'hui, grève sauvage pour le gouvernement, droit de retrait pour les syndicats. Nous ferons le point sur la situation ce matin.
Nous serons également en ligne avec le représentant des associations d'usagers des transports. L'actualité ce matin, c'est également le flou autour de la date du Brexit. Les Européens en ont assez de la saga des reports.
Toujours des affrontements au nord de la Syrie en dépit du cessez-le-feu et des réfugiés syriens en Turquie très inquiets pour leur avenir.
Si le gouvernement turc dit « Rentrez chez vous », on ira. S'il nous bloque ici, on restera. Il décide et nous on suit.
Un reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini.
La privatisation de la Française des Jeux, c'est parti. Nous pourrons acheter des actions à partir du 7 novembre. Ce sera l'éclairage éco de Nicolas Barré dans ce journal.
Et puis plouf dans l'eau, le Secours Populaire lance une opération dans toute la France pour apprendre à nager aux enfants défavorisés.
Baptiste, sors ton bidon, il doit être à la surface, il ne doit pas être au fond de l'eau.
Il est 7h01, bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
On imagine que tous ceux d'entre vous qui doivent prendre le train ce matin sont inquiets. Vous faites peut-être partie du 1,5 million de voyageurs qui se sont retrouvés piégés par le mouvement qui a commencé vendredi matin alors que personne ne s'y attendait.
Nous allons donc tout de suite prendre le pouls de la situation avec vous, Julien Pierce. Où en est cette grève ce matin, Julien ?
Écoutez, la direction de la SNCF que je viens de contacter est en train en ce moment même de faire remonter les premières informations. Il peut donc y avoir un léger décalage entre les prévisions de trafic et la situation que vous rencontrez en gare. Les suppressions de trains concernent principalement les TER et surtout les intercités. 40% d'entre eux sont à l'arrêt ce matin avec de grosses disparités selon les lignes. Un train assuré sur 4 par exemple pour la liaison Tarbes-Bayonne contre 2 sur 3 pour le Paris-Limoges-Toulouse. Concernant les TER maintenant, tout dépend de la région où vous vous trouvez. Le trafic est normal ou quasiment normal ce matin dans les Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne, en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine et en Provence-Alpes-Côte d'Azur où là quelques perturbations sont à prévoir jusqu'à midi. C'est plus compliqué en revanche en Auvergne-Rhône-Alpes, 30% des TER supprimés. En Occitanie, c'est 1 sur 2. Le pire étant en Centre-Val-de-Loire, où là, une majorité de trains de TER, 60% sont à l'arrêt. En revanche, pas ou très peu de perturbations pour les TGV, les Ouigo et les Transiliens.
Merci Julien Pierce.
Guillaume Pépi promet que tous les billets seront remboursés, y compris pour les Ouigo. Le patron de la SNCF annonce aussi le déblocage d'un fonds d'indemnisation d'1 million d'euros.
Oui, pour tous ceux qui ont dû payer des nuits d'hôtel ou encore louer une voiture, par exemple, ce voyageur rencontré gare Montparnasse reste malgré tout très sceptique et aussi très en colère.
Ça ne rattrape pas le week-end et ça ne rattrape pas une attitude qui est malheureusement incrustée dans une démarche qui n'est pas la bonne. Ça fait des années qu'en Ile-de-France, la conduite des TER avec un seul conducteur fonctionne. Il y a eu un accident qui est bien malheureux et où le conducteur s'est particulièrement bien comporté dans les circonstances dramatiques. Mais provoquer une grève nationale pour ça, je trouve ça disproportionné et malvenu. Et probablement plus lié à un contexte d'insatisfaction qu'à la réalité des faits.
Un témoignage au micro de Pierre Herbulot.
Bonjour Bruno Gazot.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes le président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Vous avez entendu l'amertume de ce voyageur. Est-ce que les annonces de Guillaume Pépi répondent à vos demandes ?
Écoutez, pas complètement, mais c'est un gros progrès, puisque pour la première fois, la SNCF, non seulement va rembourser les billets, même ceux qui n'étaient pas remboursables, ce qui est quand même absolument légitime et nécessaire. Mais pour la première fois, elle reconnaît qu'il peut y avoir des dépenses excessives et qui vont au-delà du dédommagement sur le simple coût des billets, qui peuvent être des nuits d'hôtel, qui peuvent être des correspondances rappées ou qui peuvent être différentes dépenses de toute nature. Donc la création de ce fonds, je trouve, est un progrès. Maintenant, il faut voir les conditions d'utilisation, quelles sont les règles qui vont être associées à ce fonds. On va regarder tout ça avec beaucoup de détails et en particulier en liaison avec la médiatrice de la SNCF, avec qui la FNOT, qui reçoit beaucoup de réclamations, est en contact permanent.
Bruno Gazot, les syndicats invoquent le droit de retrait à cause du danger que représente, selon eux, la circulation des trains sans contrôleur. Ça veut dire que cette situation, elle pourrait se reproduire ?
Alors, bien sûr qu'elle peut se reproduire. Moi, j'attire l'attention sur le fait, sans prendre parti pour le droit de grève ou le droit de retrait, qui sont tous les deux inscrits dans la Constitution. Mais ce que j'observe, c'est que en cas de droit de retrait, il n'y a aucune protection de l'usager puisqu'il n'y a pas de plan de transport, il n'y a pas d'information de voyageurs et il n'y a pas de délai permettant une négociation au sein de l'entreprise. Donc on est très peu protégé par le droit de retrait et si ça devait se reproduire, il conviendrait à ce moment-là de modifier la loi ou de l'aménager pour que l'usager soit mieux protégé.
Voilà, vous demandez une modification de la loi. Merci Bruno Gazeau d'avoir été l'invité du 6h ce matin sur Europe 1. Vous êtes le président de la FNOT qui représente les associations d'usagers des transports.
En direct, dans ce journal de 7h, vous pouvez intervenir aussi au 3921. N'hésitez pas sur le hashtag Europe 1 à nous dire la situation telle que vous la vivez sur le terrain. On vous a donné les dernières informations de la direction de la SNCF. Mais vous, sur le terrain, est-ce que vous arrivez à prendre votre train tout simplement ce matin? 3921, le hashtag Europe 1. Je serai en direct avec Yves Verrier, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, à 7h40. Cette fois, c'est sûr, la privatisation de la Française des Jeux est en marche.
Sur Europe 1, l'éclairage éco avec la Société Marseillaise de Crédit, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
C'est votre éclairage éco ce matin. Le gendarme de la Bourse a donné son feu vert à une opération de plus de 3 milliards d'euros.
Et c'est parti, en effet, les Français vont pouvoir acheter des actions de la Française des Jeux entre le 16 et le 19 novembre. La valeur de l'action n'est pas encore arrêtée, mais ce qu'on sait déjà, c'est que l'État va céder en bourse 52% du capital. Il en conservera 20% pour garder un droit de regard. Et puis les associations d'anciens combattants resteront également au capital. Ce sont des actionnaires historiques, ça remonte à la Première Guerre mondiale. Une partie des recettes de la loterie était destinée à ceux qu'on appelait les gueules cassées.
Le gouvernement veut que cette privatisation soit un succès populaire, Nicolas.
Eh bien oui, les actions seront vendues aux particuliers avec une décote. Ceux qui les garderont plus de 18 mois auront droit même à une action gratuite pour 10 actions achetées. Et puis enfin, l'État comme la direction de l'entreprise vante le caractère stable de l'activité. 25 millions de joueurs chaque année, une croissance des paris de 5% en moyenne depuis 25 ans. Bref, investir dans la Française des Jeux présente un risque mesuré, ce qui n'empêche pas quelques critiques. Une fois privatisé, il faudra veiller à ce que la FDJ n'abuse pas de son monopole sur les jeux de tirage et de grattage en développant des jeux trop addictifs. Une autorité de régulation doit y veiller. Et puis d'autres soulignent que ce sont les ménages à bas revenus qui jouent le plus et ceux à haut revenus qui achètent des actions et profiteront donc de la bonne santé de la Française des Jeux. En attendant, c'est l'État qui espère faire une bonne affaire parce que la prochaine privatisation, celle d'Aéroports de Paris, va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps.
Merci Nicolas Barré, directeur des Échos.
Et puis on l'a appris hier soir, Mathieu Pigas quitte la Banque Lazare.
L'homme d'affaires qui est aussi l'un des grands actionnaires du journal Le Monde a décidé de démissionner de la tête de la filiale française au 31 décembre. Il veut s'engager dans un projet personnel dont il ne dévoile pas la teneur pour l'instant.
Europe 1. Imaginez le défi pour Boris Johnson. Sortir d'une impasse sans faire marche arrière. Brexit ou pas, toujours l'incertitude à Londres et donc à Bruxelles également. Où nous retrouvons Isabelle Horry dans quelques instants, la suite du journal de 7h.
Europe 1, il est 7h09, la suite du journal avec Hélène Zélani et Mathieu Béliard.
Si vous arrivez à nous dire comment va évoluer le Brexit, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que franchement, il est bien malin celui qui arrive à prévoir la suite, la sortie théorique. Hein, c'est le 31 octobre, sortie de l'Union Européenne. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été obligé par son Parlement à demander un report.
Oui, mais il ne compte pas s'en tenir là, loin s'en faut. Il va tenter d'organiser un nouveau vote dès aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, à Bruxelles, Isabelle Horry, on se résigne à attendre et on envisage toutes les possibilités.
Officiellement, l'Union européenne reste froide et détendue face à la saga londonienne. Hier matin, les représentants des 27 se sont réunis 15 toutes petites minutes à Bruxelles. Ils ont lancé la ratification de l'accord côté européen. Le Parlement de Strasbourg commence d'ailleurs ses travaux aujourd'hui. Le message adressé à la Chambre des communes est sans ambiguïté. Nous, on continue, à vous de voter et ensuite on avisera. En coulisses, bien sûr, c'est plus compliqué et les diplomates se préparent déjà à plusieurs éventualités. Première option, le Parlement britannique réclame du temps pour examiner le texte. Les 27 sont prêts à donner un court délai de quelques jours ou semaines au-delà du 31 octobre. Deuxième possibilité, les Britanniques votent non cette semaine. Là, il faudra que les dirigeants européens reviennent à Bruxelles, sans doute en début de semaine prochaine, pour étudier la possibilité d'un long report du Brexit. Enfin, dernière option, Westminster vote oui dans la semaine. Soyons clairs, les Européens qui en ont plus qu'assez croisent les doigts pour qu'elle se réalise. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
Le Chili est en train de vivre les pires émeutes depuis des décennies, au point que le président Piñera affirme que son pays est en guerre. Bilan pour l'instant, 7 morts, couvre-feu décrété pour la deuxième nuit consécutive dans la capitale Santiago, état d'urgence également dans plusieurs grandes villes du pays.
Dans le nord de la Syrie, les affrontements se poursuivent malgré le cessez-le-feu signé par le président Erdogan.
Le président turc qui avait lancé cette opération officiellement pour sécuriser sa frontière, mais aussi pour envoyer chez eux une partie des 3,5 millions de Syriens Syriens qui avaient trouvé refuge en Turquie. Des familles dans l'incertitude prise entre les aléas des affrontements et des alliances militaires. Écoutez le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à la frontière, Jean-Sébastien Soldaini.
L'intervention turque avait fait naître un espoir de retour chez Raïl, 5 ans qu'il a fui son pays, mais l'entrée en jeu de l'armée syrienne a contrarié les plans de Recep Erdogan et du coup, douché les espoirs de cet agriculteur.
Que pouvons-nous faire ? La décision n'est pas entre nos mains. Si le gouvernement turc dit « rentrez chez vous », on ira. S'il nous bloque ici, on restera. Il décide et nous on suit.
Ballotté au gré des accords, il n'est pas le seul à être déçu. Les Turcs sont de plus en plus nombreux à réclamer le départ des réfugiés syriens. Mustafa se dit heureux d'imaginer ça.
Les Syriens commencent vraiment à être un poids pour nous, un poids dans nos têtes. Nos soldats sont en train de mourir pour eux et eux, ils mènent une vie douce ici. Ce que l'État turc leur donne, c'est en moins pour nous. Et puis ils se considèrent ici comme chez eux.
Un retour qui ne semble pas pour tout de suite. La zone de sécurité située en Syrie est plus petite que celle souhaitée par Recep Erdogan. Pas encore assez vaste pour accueillir les millions de réfugiés syriens. Sourouch, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et puis des centaines de milliers de Libanais sont descendus dans la rue hier pour dénoncer une classe politique qu'ils accusent d'incompétence et de corruption. Le gouvernement devrait annoncer des réformes dans la journée.
Europe 1.
Pour que tous les enfants se sentent comme des poissons dans l'eau, le Secours Populaire leur offre des stages gratuits pendant les vacances. Écoutez ce reportage près de Lille dans la suite du journal de 7h. À tout de suite.
Europe 1, il est 7h14, la suite du journal avec Hélène Zélani et Mathieu Béliard.
Comme un poisson dans l'eau, c'est le nom de l'opération lancée aujourd'hui par le Secours Populaire.
Oui, pendant ses vacances scolaires, l'association apprend à nager à des enfants défavorisés, car il faut le savoir, un enfant sur deux ne sait pas nager à son entrée en 6e. Direction Vambrechy, près de Lille, au centre aquatique Somaille, Maximilien Carlier a enfilé son maillot de bain et ses claquettes pour assister à une séance.
Baptiste, sors ton bidon, il doit être à la surface, il doit pas être au fond de l'eau.
Short, t-shirt et perche dans les mains, Emeric donne des cours chaque semaine.
Les bras ne s'arrêtent jamais, les jambes ils s'arrêtent.
En face, Mathéo et Noé, 6 et 8 ans, bonnet de bain sur la tête et lunettes sur le nez, ils écoutent attentivement.
Bah, j'apprends à faire la fusée, à nager comme ça ou à nager comme ça. Ça veut dire de nager sur le dos, sur le ventre. Avant j'avais un petit peu peur, mais maintenant j'ai pas peur.
Sur le côté, les parents immortalisent le moment, prennent des photos. Et ils sont plutôt rassurés.
Quand ils sont en bas âge, on est toujours inquiet de ce qui peut se passer. Donc là, en sachant nager, au moins, on a une petite sécurité si jamais il arrive quoi que ce soit, si on n'est pas là, effectivement.
Les noyades ont augmenté de 30% lors de l'été 2018. Elles sont responsables de plus de 1000 décès chaque année. Emeric, le maître nageur, remarque qu'il y a de plus en plus de demandes pour des cours.
Dans certaines piscines, il y a les inscriptions qui sont complètement saturées. Quand on est parent et qu'on entend qu'il y a des morts, des décès, c'est pas ce qu'on souhaite pour son enfant, donc forcément on essaie de faire le nécessaire. Ok, regagne le rebord. Allez, à la semaine prochaine. Salut les loulous.
Vambrechy, Maximilien Carlier, Europe 1.
Voilà, salut les loulous et puis le foot. On respire à Marseille après la victoire contre Strasbourg 2-0. L'OM qui remonte à la 4e place de la Ligue 1 avant son déplacement au Parc des Princes.
Un petit peu dissipé, excusez-moi Hélène Zélani. Alors deux choses. D'abord, c'est hyper important. Sachez-le, toutes ces noyades chaque année, on peut en parler tout l'été. En même temps, là, à la Toussaint, il y a des enfants qui apprennent et c'est essentiel, c'est une question de survie. La deuxième chose, c'est plus léger, Hélène Zélani, mais ça va vous plaire. C'est Le Monde Bouge avec Axel de Tarlet. Je sais que vous embarqueriez volontiers dans ce vol, le vol le plus long de l'histoire,
oui,
qui a rallié New York à Sydney, 19h sans escale. 19h sans escale. Alors moi je veux bien, hein.
Beaucoup
si,
de films.
Si on a les moyens, on se met dans une classe confortable, on regarde beaucoup de films, même si vous allez entendre que les passagers ont été appelés à ne pas regarder les écrans tout le long du film. Maintenant, je vous laisse imaginer le voyage avec les enfants. 19h sans escale, 19h, c'est plus compliqué quand même. Merci beaucoup, c'était le journal d'Hélène Zélani, on en parle dans Le Monde Bouge dans un instant.